son d'Europe, Catherine Roland.
Bonjour et bienvenue sur Accent et nous partons tout de suite en Ukraine pour entendre un témoignage fort recueilli par notre correspondant Sébastien Gobert. Alors que le conflit perdure dans l'est du pays, près de la frontière russe, les échauffourées sont quotidiennes et meurtrières, les exactions sont nombreuses, arrestations et détentions arbitraires se multiplient des deux côtés et rares sont les victimes qui osent témoigner, mais Mykola Vakaruk, lui, a franchi le pas. Il a passé 590 jours dans une prison secrète et il raconte.
Mykola Vakaruk n'est plus que l'ombre de lui-même. En 2014, il pesait environ 90 kilos. Aujourd'hui, il en pèse à peine 60, après avoir passé près de 2 ans dans une prison secrète des services de sécurité d'Ukraine.
Je n'ai jamais caché ma désapprobation du nouveau pouvoir à Kiev. Le pouvoir qui est arrivé après le Maïdan était illégal.
En dehors de quelques manifestations et provocations, Mykola Vakaruk n'avait pas pris les armes. À cause d'une blessure à la jambe, il n'avait même pas pris part au référendum illégal sur l'indépendance du Donbass le 11 mai 2014. Mais ses idées ont suffi pour qu'il soit arrêté chez lui en décembre de la même année. Commence alors une série d'interrogatoires musclés pour lui et quelques comparses.
On entendait une femme hurler dans la pièce voisine. C'était Margarita Shmakova, ma collègue, qui était torturée. Les officiers m'ont demandé si je voulais qu'il fasse crier ma femme de la même manière. Et là, j'ai accepté d'écrire ce qu'il me dictait, que j'étais un informateur pour l'artillerie des séparatistes, que je transmettais des informations sur les mouvements des troupes ukrainiennes. J'ai tout dit devant une caméra.
Une fois les aveux enregistrés, Mykola Vakaruk est transféré vers un centre de détention secret, qui sera par la suite identifié comme les locaux des services de sécurité d'Ukraine à Kharkiv, une grande ville de l'Est. Il y est incarcéré avec des dizaines d'autres dans des conditions très rudes.
Les gardes nous tourmentaient chaque soir. Ils déposaient des produits chimiques dans nos assiettes. Ils nous traînaient au sol, dans les couloirs, en pointant leurs pistolets sur nos têtes, en nous traitant de séparatistes.
À cause des conditions de détention épouvantables qui dégradent son état de santé, il doit subir une opération grave, l'ablation d'un rein. Il est hospitalisé pendant 1 mois sous un faux nom, avec l'interdiction de parler à quiconque. Pour Krassimir Yankov, membre d'Amnesty International, ce traitement relève d'une pratique très ancrée chez les belligérants.
Son cas est l'un des plus marquants, mais nous avons étudié de nombreux abus commis par les forces militaires ukrainiennes et par les séparatistes pro-russes. Nous avons relevé des arrestations arbitraires, des mises au secret et des actes de torture lors des interrogatoires.
Amnesty International et Human Rights Watch publient un long rapport en juillet sur les prisons secrètes ukrainiennes. Quelques jours plus tard, Mykola Vakaruk et 13 autres détenus sont libérés, sans explication.
Ils nous ont conduits à Kramatorsk, dans le nord du Donbass. Ils nous ont donné 100 grivnias, soit 3 euros, et des documents. Nous avons essayé d'appeler chez nous, mais tout le monde au village nous avait déjà enterrés, à part ma femme qui ne voulait pas y croire. Personne n'y a cru quand nous sommes revenus.
Depuis, Mykola Vakaruk essaye de se reconstruire et réapprendre à vivre. Mais tout ne va pas de soi, comme il l'explique lors d'une seconde conversation par téléphone. Il est stigmatisé et désigné comme complice des séparatistes.
Il y a encore beaucoup de problèmes. Par exemple, le 11 septembre, je me suis fait arrêter à un barrage routier. Ils voulaient m'emmener pour un interrogatoire, mais j'ai appelé mon avocat et des journalistes et ça s'est arrangé. Ils m'ont juste donné un avertissement, mais un avertissement pourquoi ? Je ne comprends pas.
Mykola Vakaruk tente d'obtenir justice pour les torts causés. Mais les difficultés sont nombreuses, comme l'explique le militant des droits de l'homme, Krassimir Yankov.
Seules 4 personnes ont choisi de porter plainte et de demander justice pour ce qu'elles ont enduré. Les autres ont peur. L'une des grandes victimes du conflit dans l'est de l'Ukraine, c'est le respect de l'état de droit.
Quel que soit le côté de la ligne de front, la possibilité pour ces victimes d'abus d'obtenir justice sera néanmoins l'une des conditions pour imaginer un avenir apaisé. Et entamer, une fois le moment venu, un processus de réconciliation.
Incapable de former un gouvernement depuis 9 mois, l'Espagne se retrouve au banc de l'Europe, absente des forums et sommets, et les conséquences commencent à se faire sentir. Le ministère des Affaires étrangères vient de tirer le signal d'alarme. Alors en ligne de Madrid, on retrouve François Musso. Bonjour François.
Bonjour.
Depuis décembre 2015, finalement, aucune négociation n'a abouti, ce qui signifie qu'il n'y a plus de pilote dans l'avion espagnol.
Bah en réalité, non. Il y a bien sûr un gouvernement intérimaire, celui du conservateur Rajoy, qui est aux manettes depuis 2011. Il y a un gouvernement intérimaire qui expédie les affaires courantes, mais c'est un exécutif qui n'a pour ainsi dire aucun pouvoir. Il ne peut pas faire voter de loi, encore moins les promulguer. Il n'a pas non plus de compte à rendre au reste des partis politiques. Et ceux-ci ne peuvent pas présenter d'amendements ni lui demander des explications. Tout cela fait que dans la pratique, le pays est dirigé en pilotage automatique, en quelque sorte.
François, c'est ce qui inquiète en particulier la diplomatie.
Oui, les diplomates espagnols sont très inquiets. Ils ont trouvé même une formule, ils disent « pato cojo », canard boiteux, pour désigner leur pays. Dans la pratique, il y a une quarantaine de traités que Madrid ne peut pas ratifier actuellement. Cela va des accords aériens avec des pays comme l'Inde ou le Mexique, ou bien des traités de système de double imposition avec la Finlande ou le Qatar. Le plus grave, c'est que le chef de l'État, le roi, doit annuler de nombreuses visites où il devrait influer sur la signature de contrats. Pas de rencontre au plus haut sommet non plus avec la Turquie, l'Algérie ou le Maroc, avec d'autres chantiers importants en jeu. Au Canada aussi, des sociétés espagnoles sont en lice pour des contrats qui valent au total 60 milliards de dollars. Et sans l'appui des autorités, des diplomates, aucune chance de les gagner.
Plus grave, l'Espagne ne compte plus du tout dans le concert international, notamment sur son propre continent.
Oui, de nombreuses crises que connaît l'Europe, on le sait, réfugiés, populisme, problèmes monétaires, et l'Espagne n'a pas voix au chapitre. Elle est concrètement écartée des centres de pouvoir, là où se prennent les grandes décisions. Par exemple, sur le futur de l'Europe après le Brexit, la France, l'Allemagne et l'Italie ont pris les rênes, l'Espagne n'existe pas. Il y a plus grave aussi, on court tout droit vers de nouvelles élections en décembre prochain, un troisième scrutin en seulement un an. Or, en septembre, d'ici la fin de ce mois, il faudra adopter un nouveau budget, sans quoi Bruxelles pourrait imposer à Madrid une amende de 2 milliards d'euros. L'Espagne a besoin d'un gouvernement stable, mais cela n'en prend pas vraiment la direction.
François Musso, que l'on retrouvera prochainement dans Accent d'Europe. Comme les autres frères baltes, la Lituanie surfe sur les biotechnologies. Elle pèse désormais 1% du produit intérieur brut et ont progressé de 25% en un an à peine. Alors il y a bien sûr les mastodontes du secteur qui, il y a un quart de siècle déjà, ont pris le virage de l'économie de marché. Mais l'arrivée des nouvelles technologies, comme les imprimantes 3D, ouvre aujourd'hui des possibilités encore plus grandes. Et c'est Marielle Vitureau qui nous appelle de Vilnius.
Un pansement intelligent qui permettra d'indiquer l'état de la plaie et qui se décollera facilement, une avancée notamment pour les grands brûlés. Voilà le produit que Tadasiuk News, un jeune ingénieur spécialiste des nanoparticules, a inventé durant ses études. Le jeune scientifique est loin d'être un cas isolé dans son pays. L'équipe de Vitamed a créé un casque permettant de mesurer la pression intracrânienne sans examen invasif et a ainsi attiré l'attention de fonds d'investissement américains et de la NASA. Quant aux chercheurs de Ferentis, ils développent, eux, des peptides biomimétiques qui se substituent aux molécules de la peau et permettent de réparer les tissus. Les biotechnologies sont le nouveau filon de l'économie lituanienne et c'est logique pour le ministre de l'économie, Evaldas Gustas.
Nous avons de bonnes universités avec des centres scientifiques à la pointe. Nous avons également créé des incubateurs technologiques qui accueillent des start-up, leur permettant ainsi de développer leurs produits.
Le développement depuis quelques années de Silicon Valley de la technologie a permis le renouvellement massif des équipements des universités, devenus ainsi de véritables centres de développement scientifique. Et c'est ainsi que Tadasiuk News a pu développer son pansement intelligent. Aujourd'hui, en Lituanie, sur 1 million de personnes, 800 travaillent dans le secteur des biotechnologies, autant qu'en Suisse, selon le ministre. Mais pour devenir en 2020 le berceau européen des sciences, ambition affichée de la Lituanie, encore faut-il que les inventions se transforme en produits commercialisables. Les scientifiques ont donc grand besoin d'une formation en entrepreneuriat et les managers d'une sensibilisation à ces biotechnologies. Et c'est le dilemme auquel fait face Tadasiuk News. Dans sa tête, ses idées se bousculent, mais comment les réaliser et les vendre? Son pansement ne devrait pas être commercialisé avant 2 ans.
C'est faux.
C'est une école pas comme les autres, à Paris. Elle s'est baptisée Thot, du nom du dieu égyptien du savoir. C'est aussi l'acronyme de « Transmettre un horizon à tous ». Financé grâce à des dons en ligne, on y enseigne le français à raison de 10 heures par semaine à des réfugiés non diplômés, ceux qui auront le plus de difficultés à s'intégrer ou à trouver un travail. Après 3 mois de cours, la première promotion au niveau débutant va passer à un diplôme de français langue étrangère et ce sera le 4 octobre. Frédéric Lebel est allé les rencontrer.
L'école Thot a vu le jour en quelques semaines. Un rêve un peu fou, né dans la rue, au plus près des réfugiés. Judith Akien, la cofondatrice, était bénévole. Elle a voulu donner plus.
Le simple fait de proposer un lieu accueillant, ambitieux, ça donne déjà beaucoup confiance. Ça inclut déjà socialement. Et quand je vois les progrès qu'ils font, le désir qu'ils mettent en place, qu'ils mobilisent, et les efforts qu'ils mobilisent, pour apprendre, progresser sans cesse et évoluer, j'ai absolument confiance en leur avenir.
Devant la maison des associations qui prête une salle quelques heures par semaine, on retrouve Kalima Sefta, professeure expérimentée de français langue étrangère. Elle est payée 10 heures par semaine pour suivre ce petit groupe.
Alors voilà, nos élèves. Sahafia.
Bonjour,
Moussa. Bonjour, Sahafia. Frédéric.
J'allais dire, ils sont jeunes, beaux et intelligents.
C'est vrai. Mais indépendamment de ça, ce sont des personnes qui ont une volonté absolument extraordinaire. D'abord, pour arriver ici, il faut avoir de la volonté. Où sont les autres?
On sépare les
pas. Oui, on va séparer les pas. Nous avons ici des personnes qui ne savaient pas tenir un crayon en arrivant, il y a 2 mois et demi. C'était difficile de pouvoir écrire au départ, d'écrire sur une ligne. Ils ne savent pas ce que c'est qu'une ligne. De gérer un cahier, ils ne savent pas comment prendre un cahier. De savoir ce que c'est qu'une marge, rien. Et qui maintenant sont capables maintenant de s'identifier, de faire une petite fiche signalétique avec leur nom, prénom, date, adresse, bon et provenance, ils le savent très bien. Ils arrivent très bien, ce que nous avons beaucoup fait, à avoir une localisation spatiale et temporelle. Des personnes qui ne savaient pas circuler dans Paris ou prendre le métro sont autonomes. Ils lisent les stations, ils lisent les plans et ils lisent les correspondances et ils fonctionnent tout seuls. Ça y est ? Bien, mes amis, allez, vous ouvrez vos cahiers, s'il vous plaît. Allez, on va ouvrir les cahiers. Allez.
Dans la classe, il y a également Juliette, institutrice qui vient bénévolement prêter main forte. Elle aussi mesure le chemin parcouru.
Énorme. Ils n'ont pas toujours confiance en eux par rapport à leur progrès, mais nous, on les voit et c'est vraiment incroyable. La plupart ne savaient pas écrire. Ils ont dû apprendre tout l'alphabet latin. Enfin, c'est un travail phénoménal qu'ils font. Ils travaillent beaucoup à la maison, on voit bien qu'ils font la traduction sur leur cahier. Ils font toutes les sorties qu'ils ont organisées par l'association Thot. Donc on voit bien que c'est vraiment quelque chose qu'ils prennent à... Voilà.
Bonjour, je m'appelle Moussa Yahya. Je suis né en Centrafrique.
Et vous êtes en France depuis longtemps?
Oui, depuis 1 an et 2 mois.
C'est la première fois que vous suivez un cours de français?
Oui, c'est le premier cours. Oui, c'est difficile, j'arrive pas à écrire bien et lire bien, c'est difficile.
Bonjour, je m'appelle Abdullah, je suis né à Ningrahar, à côté de Kaboul.
Vous êtes en France depuis longtemps?
Oui, c'est depuis 2 mois.
Vous avez demandé l'asile ici?
Oui, j'ai demandé l'asile ici, à Paris.
Vous prenez la lettre E, s'il vous plaît? La lettre E, E. Alors, vous m'avez dit qu'il y avait des éléphants dans votre pays. C'est vrai? Au Darfour, il y a des éléphants?
Au Soudan, comme vous
l'êtes.
Au
Soudan.
Au Soudan.
Oui. Il y a beaucoup d'éléphants?
Il n'y a pas beaucoup.
Chaque leçon est une occasion de parler de sa vie, celle d'avant et celle d'aujourd'hui.
Où se trouve l'Égypte? C'est en Afrique.
En aparté, Eizou, originaire du Soudan, explique en arabe à son voisin afghan Abdullah où se trouve l'Égypte en lui donnant le nom de quelques joueurs de football.
C'est Abou Tereka, Mahmoud Fathallah, Sam Al-Hadri, Sam Ghali.
Ils s'entraident beaucoup. Une très grande solidarité dans la classe. Et puis quand il y en a un qui fléchit, les autres arrivent pour le remonter. On sent qu'ils ont déjà vécu ce type d'expérience.
Pour progresser, il y a aussi des jeux de rôle.
Donc vous êtes la maman, allez-y. Uh-huh. Ou le papa, si vous voulez. Hein.
Maman, je ne comprends pas.
Tu peux
m'expliquer, s'il vous plaît.
S'il te plaît.
Mais derrière ces scénettes, le quotidien revient toujours en force.
Dès qu'ils arrivent, j'exige le vouvoiement. Jamais le tutoiement. Donc je ne veux pas qu'on les tutoie, parce que tout le monde les tutoie, c'est des gages ou le tutoiement. Tu fais ceci, tu fais ça. Donc ils reprennent ça par mimétisme et ils tutoient. Moi-même je les vouvoie et j'exige le vouvoiement en retour en leur disant, si vous tutoyez un agent de l'ordre, vous vous retrouvez au commissariat. Est-ce que vous entendez re?
Re, c'est la re. Hein.
Re, retard.
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 Reni.
Reni.
Mais assurer ce suivi régulier dans l'apprentissage est un défi. Les élèves qui, pour la plupart, n'ont pas encore le statut de réfugié sont dans la précarité. Sur les 10 élèves qui ont commencé les cours en juin, il n'y en a plus que 6.
Il y a une personne qui s'est excusée, qui est malade. Et puis les autres, c'est parce qu'elles se sont déplacées. On doit travailler pour justement ces examens, puis voilà.
C'est décevant pour vous et pour eux.
Pour eux, oui, tout à fait, tout à fait. Ce qui est très important, c'est de se rendre compte que si ils avancent, s'ils s'intègrent, c'est non seulement quelque chose de positif pour eux, mais de positif aussi pour l'ensemble de la société. Ça, c'est clair.
Ceux qui sont encore là passeront bientôt leur premier examen de français langue étrangère, une première étape pour s'intégrer.
Et on termine avec ce concours international gustatif qui intéresse absolument tout le monde, car qui n'aime pas la pizza? La compétition s'est déroulée bien entendu à Naples, berceau de cette fine galette de pain avec 16 pays en lice et pas moins de 700 pizzaiolos. Et surprise, ce sont les Portugais qui l'ont emporté. Il faut dire qu'ils ont rivalisé d'originalité, comme nous le raconte Marilyn Darcy.
De la sardine, du pain de maïs, des olives un peu amères du Douro, la région du vin de Porto, et des poivrons, ce sont des ingrédients étonnants dans une pizza, mais qui ont ravi le jury du championnat mondial de ce mets si connu. La compétition s'est déroulée début septembre à Naples, territoire privilégié de la pizza. Et à la surprise générale, ce sont les Portugais qui l'ont emporté grâce à leur audace et à la qualité des produits utilisés pour la garniture de la si célèbre galette plate. Les 6 pizzaiolos portugais, dont une femme, travaillent tous hors de Lisbonne. Ils ont donné d'ailleurs des noms régionaux à leur création. Ainsi, la pizza Algarve, région du sud près de l'océan, contient crevettes et salicornes et alentejo, du saucisson et du fromage de chèvre. Les Portugais sont en fait des nouveaux venus sur le terrain de la pizza, souvent encore vus comme un plat exotique, car rare, par les Lusitaniens. L'intérêt récent pour la compétition internationale et la création est dû à un Italien naturalisé portugais, rendant à César ce qui appartient à César. Antonio Mezzano a d'ailleurs été sacré vice-champion à Naples pour son Amalia à base de morue. Oui, une pizza à la morue, ce célèbre poisson qui est au portugais ce que la baguette est au français. 200 grammes du meilleur d'un kilo de morue sur une fine couche d'oignon, pas dessus, pour ne pas heurter les Italiens, et en bouche, une explosion de saveurs. Une confection délicate, impossible à reproduire pour une pizza quotidienne. Tout le monde vous le dira, le secret d'une bonne pizza, c'est la pâte. Et là, le jury napolitain a trouvé que les Lusitaniens étaient encore bien jeunes. Promis, ils vont travailler d'arrache-pied pour que l'art du croustillant et du moelleux rassemblé ne connaisse plus de secret.
À la réalisation d'Accent, il y avait Françoise Grelot, bien sûr. Retrouvez-nous sur RFI.fr ou sur notre page Facebook. Et restez à l'écoute de RFI dans quelques instants, les infos.